Radio Okapi.
Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette grande édition de midi. À la présentation, Liévin Bouinga, à la une de l'actualité. Le centre de santé de Bogoro dans la province de l'Ituri en grande difficulté. Pas de matériel nécessaire et d'autres moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des patients. Détails dans un instant. État des lieux du phénomène de la corruption et de détournement de deniers publics. Quelle réponse judiciaire ? Thème développé samedi aux États généraux de la justice par l'inspecteur général des finances, chef des services, Jules Alinguété. Dans ce journal, les temps forts de ce speech. Notre invité est le coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local. Valérie Madianga dénonce le financement de 3 millions de dollars américains pour la construction des routes inexistantes à Kinshasa. C'est tout pour les titres. Je le disais en ouverture de ce journal, le centre de santé de Bogoro dans la province de l'Ituri présente un visage de parents pauvres. Cet établissement situé à 25 km de Bounia ne dispose pas de matériel nécessaire et d'autres moyens logistiques pour une meilleure prise en charge des patients. Et pourtant, elle était récemment inaugurée par les autorités de la province dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires financé par le gouvernement central. Les responsables de cette structure sanitaire sollicitent l'appui du gouvernement et ses partenaires. Le point avec Jean-Claude Lokidile.
C'est un bâtiment flamboyant qui dispose d'une maternité, d'un bloc opératoire, d'une salle d'accouchement, d'un laboratoire ainsi que de salles d'internement de malades. Mais les centres de santé ne disposent pas de matériel de laboratoire ni d'équipement nécessaire pour diriger des interventions chirurgicales. Des malades sont obligés parfois de partager un même matelas ramené de la maison qu'ils placent à même le sol. Difficile d'assister des femmes enceintes pour cause. Cette formation médicale ne dispose pas d'appareils d'échographie. David Mugisa, l'infirmier titulaire, avoue que la plupart des malades préfèrent se faire soigner dans d'autres structures plus équipées, d'où son appel au gouvernement.
Si vous voyez les bâtiments, en tout cas, on l'a bien construit. Si vous entrez maintenant à l'intérieur, il ne faut pas de matériel. Actuellement, nous recevons des malades qui viennent hors aire de santé. Alors, s'ils trouvent qu'il ne faut pas de matériel, en tout cas, ce n'est pas bon. Comme maintenant, on a une structure de référence, centre de santé de référence, je demande au gouvernement de nous donner du matériel, que les malades viennent se soigner en disant que voilà, là, il y a quand même une bonne prise en charge.
Sinon, que cette structure sanitaire reçoit en moyenne plus de 200 malades par mois et dessert une population estimée à 5000 habitants. De retour de Bogoro, Jean-Claude Loki, Dile, Radio Cap.
Ici, c'est la salle de soins.
C'est la salle de soins. Oui.
Mais du côté du Tanganyika, les travaux du programme de 145 territoires se portent bien et évoluent normalement. Propos du représentant résident du PNUD en RDC, c'était hier à Kalemi, au cours de la conférence de presse qu'il a animée conjointement avec le vice-premier ministre du plan. Les deux intervenants ont fait un état de lieu de ce programme dans la province du Tanganyika. Mais Damien Mama, représentant résident du PNUD, note tout de même quelques difficultés liées au mauvais état de route. Il le dit au micro de Paulin Munanga.
Dans toute la province, on a déjà 5 écoles qui sont utilisées par les enfants et nous avons 24 autres infrastructures qui sont en finition et le bâtiment administratif de Kabimba, les deux écoles ainsi que le centre de santé de Mitoa font partie. Donc il y a du travail qui est en train d'être fait. Dans la province du Tanganyika, nous avions prévu 91 infrastructures totales et à ce jour, il y a encore 14 pour lesquelles on n'avait pas encore signé les contrats à cause des questions de décaissement qui viennent d'être réglées. Donc en fait, on doit pouvoir signer les contrats pour les 14 pour que dans toutes les localités où c'est prévu, on puisse avoir effectivement les travaux démarrés et finis. Pour ce qui concerne les territoires de Manono, Kongolo et Kabalo en particulier, les travaux sont en cours, mais pas au même rythme que les autres territoires. Et cela s'explique, vous savez, plus les territoires ont des problèmes d'accessibilité, plus les travaux sont lents. Vous savez, par exemple, que Manono a été coupé de l'ensemble de la province pendant au moins 5 mois récemment. On ne pouvait pas y aller.
Le gouverneur du Congo central juge son bilan positif. Grâce Nkwanga Bilolo s'est exprimé à l'occasion de ses 100 jours à la tête de la province. Il a fait évidemment allusion aux actions réalisées sur l'ensemble de la province du Congo central. À l'issue d'une conférence de presse animée pour la circonstance, son conseiller en communication qu'il a animé a révélé dans son adresse que l'absence criante de l'autorité de l'État dans certaines entités fait partie des contraintes auxquelles la province fait face pour relever les défis d'ordre sécuritaire. Le point avec Nana Pluriche Mambou.
Sur les plans sécuritaires, Martin Solo, conseiller en communication du gouverneur des provinces, a souligné que l'arrivée du gouverneur Grâce Bilolo a apporté une nette stabilité dans les deux villes ainsi que dans les grandes agglomérations de la province. Quelques cas isolés d'insécurité s'observent plus dans les ex-cités comme Kimpese, Lukala, Kinsamvu et Enshioni à Lukula. Pour s'assurer que tout se passe bien, le chef du gouvernement provincial a mis en place plusieurs stratégies. Martin Solo.
Le chef du gouvernement provincial tient régulièrement des conseils provinciaux de sécurité. Les appuis financiers et matériels sont mis à la disposition des services de sécurité pour renforcer leurs capacités. Le gouvernement provincial procède à l'organisation régulière des audiences foraines dites pédagogiques en vue de juger et éventuellement condamner tous les auteurs de crimes.
Signalons que plusieurs actions de grande envergure ont été menées durant les 100 premiers jours du gouverneur Grâce Nkwanga Bilolo. C'est notamment la construction de 12 240 m2 de routes en béton armé à travers la province et la dotation de 10 motos dans les territoires de Songololo pour renforcer la sécurité, précise son conseiller en communication. Matadi, Nana Pluriche Mambou, Radio Okapi.
État des lieux du phénomène de la corruption et de détournement des deniers publics, quelle réponse judiciaire, thème développé samedi aux États généraux de la justice par l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguete. C'était la vedette de tous les panélistes qui a électrisé la salle avec des applaudissements sans cesse. En droit, tout le monde jouit de la présomption d'innocence, même le détourneur attrapé en flagrant délit, ironise Jules Alinguete. Reportage de notre envoyé spécial à ses assises, Jeff Ngoy.
Jules Alinguete.
Améliorer les conditions de travail des magistrats, beaucoup les gens le disent. Ici, c'est encore la mauvaise gouvernance des détourneurs qui mettent la justice en difficulté. Vivant, la justice dépend du fonctionnement, de l'amélioration des conditions de travail et même de l'amélioration des conditions financières. Donc, moi, je dis que les magistrats, quand ils sont devant les détourneurs, ils considèrent que voici les auteurs de leur malheur.
Les participants acclament les chefs et refusent que la parole lui soit retirée par la modératrice du panel, malgré l'épuisement de ces minutes. Lorsqu'une personne est innocente, ce n'est pas parce qu'elle est nécessairement innocente, mais c'est peut-être parce que le ministère public n'a pas pu convaincre le juge, déclare Jules Alinguete. Parlant du contrôle technique des travaux publics, il révèle que dans la plupart des marchés gagnés, l'entreprise qui exécute les travaux est en même temps propriétaire du bureau technique qui contrôle la qualité des travaux.
Nous sortons beaucoup d'argent pour les travaux publics. Il faut que nous puissions remettre le bureau technique du contrôle dans son rôle comme l'unique bureau de contrôle de l'État pour neutraliser tous ces bureaux privés.
Solution. L'IGF propose une trilogie dans la lutte contre la corruption constituée de la volonté politique, des organes de contrôle efficaces et de la justice.
Restons dans ce dossier pour vous signaler que la Synergie des organisations syndicales et sociales a déposé ce lundi son mémorandum au Bureau des États généraux de la justice qui se tiennent ici dans la capitale. Dans ce document de quelques pages, cette organisation syndicale a proposé plusieurs réformes dont l'instauration d'une justice distributive à travers une politique de rémunération. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda.
La Synergie des organisations syndicales et sociales est d'avis que le pays a besoin d'une justice distributive à travers une politique salariale appropriée pour le bien-être de tous les travailleurs congolais. Cette organisation citoyenne a également recommandé aux participants aux assises des États généraux de la justice d'incorporer la justice traditionnelle en vue d'une complémentarité avec la justice formelle. Selon son porte-parole, la justice traditionnelle va sans doute aider à renforcer la justice formelle qui, selon lui, a fait preuve de ses limites dans plusieurs dossiers de détournement à travers le pays.
Il y a donc des dossiers comme 100 jours, le dossier francophonie, La justice n'a pas été en mesure de retrouver les auteurs de tous ces forfaits et n'a pas été capable de sanctionner ni même de récupérer les biens détournés. Il faut donc une complémentarité avec les outils judiciaires traditionnels qui sont des outils plus efficaces et plus accessibles qui permettront que les auteurs de détournement puissent réparer en restituant les biens détournés pour les biens de la communauté.
Cette organisation de la société civile a en outre souhaité que les recommandations qui sortiront des états généraux de la justice puissent mettre fin à l'impunité et au contrôle de la justice par les pouvoirs exécutifs, aliénant son indépendance.
Interdiction d'interpeller des conducteurs de véhicules sur les artères principales de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, par la police de circulation routière. Cette mesure ne vient pas de nous, mais du chef de la police de Kinshasa depuis dimanche. Objectif, lutter contre les tracasseries selon un communiqué. Ces mesures du commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba-Limba visent à lutter contre la tracasserie dite policière. Donc, aucun véhicule portant mention police ne doit plus emporter les véhicules des particuliers pour les emmener à la fourrière, sauf en cas de panne. Le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimba-Limba appelle tous les conducteurs qui se retrouveraient victimes de saisir directement ces services, a indiqué le communiqué du commissariat provincial de la police ville de Kinshasa. Des combats opposent depuis ce lundi matin les rebelles du M23 aux combattants du groupe Wazalendo dans l'agglomération de Bukombo, au nord Kivu. C'est précisément au sud de la chefferie de Bouito, dans le territoire de Rutshuru. Selon les sources de notabilité locale, le rebelle M23 venu de Bichoucha et Bambo ont pris d'assaut autour de 5h30 du matin les positions des combattants du collectif des mouvements pour le changement CMC de Dominique à Bukombo, Chonyo, Kavumu et Kazuba. Ceci provoque du coup un mouvement des populations de ces villages ainsi que celle de Birambizo. Les déplacés prennent notamment la direction de l'hôpital de Birambizo et d'autres vers la brousse. Et puis la représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU en charge des opérations et de la protection en RDC est arrivée ce lundi à Beni au nord Kivu. Viviane Van der Per rencontrera les FRDC, les autorités locales et des représentants de la société civile. Au centre des discussions, la protection des civils dans la région, marquée par des défis sécuritaires persistants. Nous y reviendrons. Cri de détresse de la société civile de la cité lacustre de Kamanyuka-Kiavinyonge, située à une centaine de kilomètres de la ville de Beni. Elle déplore les attaques répétées des éléphants contre les populations riveraines du parc national de Virunga. Selon Delphin Malekani, président de la société civile locale, le dernier incident s'est produit dans la nuit de samedi à dimanche lorsqu'un septuagénaire a été tué par un éléphant venant du parc. Il appelle l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, à prendre des mesures pour prévenir la divagation des pachydermes. Delphin Malekani s'est exprimé au téléphone avec André Kitenge.
Cette mort a été causée par un éléphant qui l'a agressé dans son champ. Et c'est une chose vraiment qui nous a mis dans une angoisse. Et ce n'est pas le seul cas. Il y a aussi 4 personnes qui sont internées au centre de santé de référence de Kiavinyonge. Aussi, c'est la même situation qui a causé à ce que ces gens soient internés. Mais parmi les victimes, et les cultures aussi sont touchées aussi par la destruction de ces éléphants qui sont venus en masse vraiment pour venir chercher quoi manger. C'est pourquoi nous demandons à ce que l'ICCN puisse renforcer ses mesures de lutte contre cette divagation des animaux et voir de quelle manière aussi faire le refoulement de ces animaux et voir aussi de quelle manière être assemblés afin de parler seulement, voir quel mécanisme on peut prendre afin que les animaux et les humains, chacun pourrait rester vraiment dans ce qui les concerne. Pour le cas de la population, nous avons dit à la population d'être vigilant puisque ce cas venait de se passer à moins de 2 semaines où voilà 4 cas.
Actualité internationale.
Le chiffre de plus de 1,2 million de réfugiés soudanais accueillis en Égypte a été confirmé ce week-end dans le dernier rapport publié par le Haut Commissariat pour les réfugiés HCR, accréditant les récentes données publiées par le gouvernement égyptien. Le HCR Égypte et les autorités du pays alertent sur la gravité de la situation, mais des centaines de réfugiés fuyant la guerre au Soudan continuent d'arriver chaque jour en Égypte.
L'invité.
Si le plan directeur des transports urbains réalisé par la coopération japonaise n'est pas exécuté, la ville de Kinshasa n'aura jamais de bonne route et ne pourra pas résoudre le problème d'embouteillage. C'est ce qu'a affirmé Valérie Madianga, coordonnateur du Centre de recherche en finances publiques et développement local, CREFDEL, qui dénonce le financement de 3 millions de dollars américains pour la construction de routes inexistantes à Kinshasa. Dans son rapport d'enquête rendu public vendredi, le CREFDEL déplore l'opacité dans la mise en œuvre de projets d'infrastructures routières à Kinshasa. Pour en parler, Valérie Madianga, coordonnateur du CREFDEL, est l'invitée de Radio Kapil, s'entretient ici avec Michel Kifindangoy.
Valérie Madianga, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Le CREFDEL vient de publier un rapport d'enquête sur l'opacité constatée dans la mise en œuvre des projets d'infrastructures routières à Kinshasa notamment. Que pouvons-nous retenir de ce rapport?
Nous avons effectué un contrôle citoyen sur quelques projets d'infrastructures exécutés dans la ville de Kinshasa. Nous avons évalué plus ou moins 27 artères ou avenues de la ville de Kinshasa. Ces projets ont été exécutés soit dans le cadre du programme Zéro Trou, Chile Gelou ou encore des projets connexes. Nous avons relevé que tous ces projets sont exécutés de manière opaque, sans l'autorisation préalable du Parlement, qui est l'autorité budgétaire. Ces projets ne s'inscrivent pas dans le cadre d'une logique programmatique et ça ne peut permettre de résorber la question des embouteillages à Kinshasa. Ce sont des projets que nous avons jugés deux fois des devis qui sont sous-évalués et certains qui sont surfinancés. Je donne le cas par exemple de l'avenue Masikita où il était prévu qu'on devait l'électrifier. Aujourd'hui, si vous passez, l'avenue Masikita n'a pas d'électricité. L'avenue Chaba également connaît le même sort. Ce sont des travaux inachevés, mal organisés, des collecteurs d'eau non couverts, des routes de très mauvaise qualité qu'on nous offre dans la ville de Kinshasa.
Kinshasa fait actuellement face à des embouteillages monstres alors qu'un plan directeur pour mettre fin aux embouteillages avait déjà été fait par les Japonais. À votre avis, pourquoi le gouvernement n'exécute pas ce plan?
Le plan directeur n'est pas exécuté. Ce plan prévoit au moins un financement annuel autour d'un milliard de dollars pour résorber au moins la question des embouteillages ou la fluidité des circulations dans la ville de Kinshasa. Et vous avez même des scénarios, des nombres de passagers par jour. Donc, le plan est très, très bien conçu. Mais nous-mêmes, au niveau du CREFDEL, nous sommes étonnés de constater que ce plan, qui a été financé par des bailleurs de fonds, notamment la coopération japonaise, n'a jamais fait l'objet d'une insertion dans un cadre programmatique. Ça veut dire que la budgétisation devait tenir compte de ça. Mais nous avons des routes qu'on réhabilite, qu'on conçoit à Kinshasa, qui ne tiennent pas compte de ce plan. Et c'est ce qui fait en sorte que beaucoup d'argent on décaisse pour la ville de Kinshasa et ces fonds ne peuvent en aucun cas servir à ce que l'on puisse construire des routes de qualité. Ça, c'est un grand problème. Si ce plan n'est pas mis en œuvre, nous n'aurons jamais des routes de qualité dans la ville de Kinshasa.
Comment avez-vous évalué la mise en œuvre des projets Kinshasa Zéro Trou et Chile Gelou?
Oui, la mise en œuvre de ces deux projets, je pouvais vous dire que c'est chaotique. Nous avons, par exemple, des tronçons qu'on a insérés dans les deux projets qui n'existent pas. Vous avez, par exemple, dans la commune de Matete, on a inséré, soi-disant, l'avenue Tilombo. L'avenue Tilombo n'existe pas. C'est juste un arrêt de bus qu'on utilise au niveau de la commune de Matete. Il y a aussi l'avenue Lunyonzo. Cette avenue n'existe pas. Lunyonzo, c'est le nom d'un hôpital. Donc, vous voyez déjà, les deux projets sont évalués autour de 3 millions de dollars que les trésors publics auraient dû dépenser donc, à autre chose, mais c'est passé inaperçu. Et nous avons également regardé l'avenue Chabas. Les collecteurs d'eau ne sont pas de qualité, c'est trop étroit. Les eaux de pluie se déversent sur la chaussée, la route n'a plus une longue durée. Si vous faites encore un autre tour vers l'avenue de l'université, cette avenue a été réhabilitée il y a de cela 2 ans passés. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité de passage et parce que la route a été très mal réhabilitée.
Quels sont les actes de mégestion et à quelle ampleur du problème jugez-vous la mise en œuvre de ces deux projets?
Oui, les actes de mégestion dans le cadre de ces projets, il y a d'abord l'absence des études préalables. Nous avons relevé que tous les projets proposés par l'OVD ne disposent d'aucune étude préalable. Et c'est ce qui est à la base de plusieurs avenants. Vous avez un projet qui a 5-6 avenants qui viennent surfinancer le projet. Deuxièmement, vous avez le contrôle qualité qui ne se fait pas. Le troisième élément est que les coûts des frais administratifs est très élevé. Et lorsque nous regardons maintenant la quotité qui va vers les infrastructures, c'est trop faible. Et là, je me pose même des questions. Comment est-ce que ces entrepreneurs parviennent à construire des routes? Et tout ça, ça a un impact sur la qualité des routes. Et vous avez des collecteurs d'eau qui ne tiennent pas compte des conditions climatiques. Vous avez des routes à usage unique. On réhabilite aujourd'hui, quelques jours après, vous n'avez pas des routes de qualité.
Monsieur Valéry Madianga, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Voilà, et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à Martin Sebujangwe, Élisée Chikota et à Alain Goy. Excellente journée et bonne suite de programme sur Radio Okapi.